Antoine Joubert est avec nous, il veut nous parler de char, ça va nous faire du bien. Antoine, bonjour.
Ouais, salut, on va en parler, à défaut de pouvoir aller les voir, hein, parce que ce qu'on annonçait pas plus tard qu'hier, c'est l'annulation officielle du Salon d'Auto de Montréal en janvier 2021. Écoute, on nous a promis dans les dernières semaines, moi j'avais des échos à l'effet que le salon allait bel et bien avoir lieu, qu'on continue à travailler sur cette formule-là. Mais je pense qu'on s'est vite rendu compte que de tenir un salon de l'auto physique, c'était impossible dans le contexte où on peut pas avoir plus que 250 personnes dans une salle. Puis on sait pas non plus comment les règles vont changer dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois.
Parce que tout le monde, Antoine, tout le monde touche les voitures, tout le monde se croise. Puis à un moment donné, il y a du monde à la messe là, au salon de l'auto.
Ben, en fait, ça, c'est un point. Mais pour que le salon de l'auto soit rentable, ça prend du monde. Ça prend énormément de monde. Et on voit tranquillement, à chaque année, les chiffres abaisser.
Ah,
et
oui.
Moi, je te dirais que, on dépassait le cap des 200 000. On était à moins de 180 000 l'année passée, si ma mémoire est bonne. Et moi, j'ai l'impression qu'on joue un peu avec ces chiffres-là. Parce que pour passer beaucoup de temps là-bas, j'ai pas eu l'impression qu'on avait autant de monde qu'à une certaine époque. Et je parle à des commerces, à des gens qui ont des kiosques là-bas qui me disent non, l'achalandage n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 5, 6, 7 ans. Donc quand ils nous disent qu'on a perdu 10, 12 000, les gens ont l'impression que c'est plus que ça.
Pourquoi selon toi, Antoine, pourquoi ça a baissé?
Ah ben, je cherche pas. C'est inaccessible. T'sais, on le sait à quel point c'est l'enfer sur ce qu'il y a à Montréal. Et le message qu'on passe aux gens qui veulent aller visiter le salon, c'est prenez les transports en commun. C'est un salon de l'auto. Les gens vont partir de Drummondville, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Trois-Rivières, de Saint-Jérôme pour venir voir un salon de l'auto. Demandez-leur pas de prendre le métro. Sauf qu'on peut pas se rendre. Et quand on arrive sur place, les quelques stationnements qui sont disponibles, ben c'est tout le temps plein, surtout durant les week-ends,
c'est
évidemment.
Vrai. Ouais.
J'ajouterais même à ça qu'on encourageait les gens à l'utilisation de la voiture électrique, qu'on met en place à chaque année, on a des essais de voitures électriques au salon de l'auto. T'sais, on met beaucoup d'emphase sur la voiture électrique. Il y avait l'année passée, d'ailleurs, un plancher dédié à ça. C'était très bien fait.
Ouais.
Mais quand tu arrives au salon de l'auto de Montréal avec ta voiture électrique et tu veux te brancher, ben, crois-le ou non, devant les bornes de recharge sur la rue Saint-Antoine, il y a de la construction, tu peux pas te brancher.
Ouais, et ça m'est arrivé l'an passé. J'étais parti avec ma vieille Leaf 2015. Je m'en allais au salon de l'auto. Et puis, j'avais participé à ton émission. Puis, j'étais arrivé, là, puis j'avais tourné en rond. À un moment donné, j'étais reparti chez nous. Je suis retourné pour participer à ton émission, mais pour y aller, là, pour visiter le salon, j'étais en voiture électrique, il n'y avait aucune borne disponible, il y avait des travaux partout, je suis retourné chez nous.
Oui, c'est pas parce qu'il manque de bornes, c'est parce que les bornes qui sont là sont parfois inaccessibles. Fait que c'est sûr que l'achalandage est de moins en moins grand, et de toute façon, tranquillement, pas vite, il y a tellement de façons d'aller chercher de l'information sur l'automobile aujourd'hui, que les salons automobiles tels qu'on les a connus, à mon avis, sont appelés à disparaître. Et avec le COVID, c'est juste une façon d'accélérer le processus. Parce que, tu sais, Montréal, bien que les gens apprécient l'événement, là, ça demeure un salon, entre guillemets, local. En ce sens que c'est fait en collaboration avec la Corporation des concessionnaires. Oui, tu as les constructeurs automobiles qui s'impliquent sur le plan financier, qui apportent des kiosques, qui apportent des prototypes, de la nouveauté. Bon, mais c'est pas un salon d'envergure internationale comme Détroit, comme Los Angeles, comme Genève, par exemple. Et tous ces événements-là, quand je pense à Détroit, à Los Angeles, tout ça, c'est des événements qui battent de l'aile énormément.
Ah oui.
Et nonobstant le fait que la COVID est en place, Détroit, qui avait lieu en janvier depuis toujours, a décidé de ne pas faire d'événement en janvier pour la première fois cette année, de reporter à juin. Bon, évidemment, considérant ce qui s'est passé, l'événement n'a pas eu lieu. Et on a annoncé aussi qu'on annulait l'année prochaine. le salon de Détroit. Donc,
Mais Antoine, est-ce que ça se peut que le concept de faire payer des gens pour aller dans un gros concessionnaire de chars, c'est un concept dépassé, surtout qu'on peut magasiner sur nos téléphones, puis si on a une voiture qui nous intéresse, on va au concessionnaire, puis c'est gratuit?
Moi, j'y crois plus ou moins. C'est-à-dire que je crois encore à ce concept-là, sauf qu'il va falloir que pour que ça soit efficace, il faut que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Et c'est à commencer par le Palais des Congrès qui ne réduit pas les prix d'aucune façon. Tu rentres dans un endroit où c'est hyper syndiqué, où il n'y a pas moyen de négocier quoi que ce soit. Moi, pour avoir loué un kiosque au Salon de l'Auto une année en collaboration avec d'autres personnes, et quand tu dis que la location d'un tapis pour installer dans ton kiosque coûte des milliers de dollars pour 10 jours, et tu n'as pas le droit d'amener le tien.
Un tapis?
Tu vas avoir de l'Internet, ben c'est quelques centaines de dollars par jour, puis tu peux pas avoir accès à un autre système. Il y a des droits acquis pour la localité. Les gens n'ont pas idée à quel point ça coûte une fortune d'avoir un kiosque là-bas. C'est incroyable.
Donc, le salon a couru à sa perte, Antoine?
Ben, c'est-à-dire que, on va charger des centaines de milliers de dollars à des constructeurs automobiles pour aller là-bas. Et il y a des constructeurs qui, avec raison, décident de lancer la serviette. Moi, je pense à Volvo qui a dit, écoutez, là, vous me demandez de prendre une très, très grosse partie de mon budget annuel publicitaire pour avoir un kiosque au Salon de l'Auto. Et moi, je considère que les répercussions de cet événement-là ne sont pas aussi grandes en proportion que si je gère ma publicité moi-même et que je laisse pas ça entre vos mains. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de constructeurs automobiles qui délaissent les salons. Parce qu'à Montréal, la plupart des marques sont là. Et s'il y a un constructeur qui délaisse, ben il y a peut-être un regroupement de concessionnaires qui va s'organiser pour être sur place. Mais quand on va à Détroit, c'est pas des parcs, la moitié des marques sont pas là. Les trois grands constructeurs américains, bien sûr, sont là. On va avoir Toyota, on va avoir Honda, etc. Mais quand on tombe dans Jaguar Land Rover, dans Audi, dans Mercedes-Benz, c'est des gros constructeurs. Puis là, on décide d'abandonner les salons partout. Il y a une raison, c'est parce que ça coûte trop cher.
Donc, c'est la fin d'une époque, là.
Ah, c'est absolument la fin d'une époque. Puis moi, je pense que il y aurait lieu de faire un salon automobile. Tu sais, moi, je me souviens de l'époque du salon de l'auto. Au stade olympique, ça, c'était agréable.
Ouais.
Ça, c'était génial.
Ouais, ouais.
Bien sûr qu'il y avait peut-être un peu moins de voitures à cette époque-là, puis que là, l'espace est limité, puis qu'on commençait à en mettre sur l'enceinte autour du plancher principal. Je comprends. Puis je comprends aussi les enjeux d'assurance, ce qui est arrivé en 2001 lorsqu'une poutre qui est tombée sur le kiosque de Subaru, qu'on a annulé le salon. Je comprends tout ça. Mais c'était un salon que les gens appréciaient, c'était accessible, on se stationnait, on allait sur place, on prenait le temps de visiter, on n'était pas contraint à un circuit comme au Palais des Congrès. Ça,
c'est
aussi,
vrai.
Montréal, c'est un des seuls salons qui fonctionne de cette façon-là.
Ouais.
Si vous allez dans n'importe quel autre salon, on peut marcher librement sans être obligé de suivre des règles et de se faire dire par un soldat du salon de l'auto, hey, va-t'en par là.
OK. Avant qu'on se quitte, Antoine, un mot sur cet événement, 1 million de kilomètres au volant d'une Hyundai Elantra.
Oui, je veux juste finir, par exemple, sur le salon en disant que Montréal ne lance pas l'éponge et compte créer un salon virtuel qui va durer 4 jours, du 20 au 24 janvier. J'ai pas beaucoup d'informations et eux-mêmes sont pas trop capables de nous en donner pour l'instant, mais il y aura quelque chose en ligne qui va être gratuit pour les utilisateurs et Denis Talbot, qui était co-porte-parole du salon, risque d'être utilisé grandement pour ça parce qu'évidemment, c'est Monsieur Techno. Alors, j'ai bien hâte à suivre, mais il y aura quand même un petit quelque chose.
Parfait.
Je te parle de la Hyundai parce que j'ai présenté cette voiture-là hier à Salut Bonjour, une Elantra 2008, tout ce qu'il y a de plus simple, grise, boîte manuelle, rien de compliqué, mais avec laquelle je franchirai aujourd'hui le cap du 1 million de kilomètres parcourus. En fait, quand je l'ai apportée hier à l'émission, elle avait 999 600 quelques kilomètres. Et Hyundai m'a prêté cette voiture-là qui a été donnée en échange chez un concessionnaire Hyundai. il n'y a pas si longtemps, la personne qui avait la voiture s'est achetée un Kona 2020. Et quel est le seuil? Ben, moi, pourquoi je veux mettre ça en lumière? Tout simplement parce que ça prouve une chose, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir la bagnole indestructible par excellence pour être capable de faire du kilométrage. La clé, c'est l'entretien d'une voiture. Il faut que ce soit fait adéquatement. Il y a des milliards de dollars par année qui ne sont pas dépensés en entretien, ce qui fait en sorte qu'on jette des choux gras, qu'on envoie des voitures qui sont encore de bonne qualité à la scrap, juste parce qu'on surconsomme de la voiture neuve, puis parce que l'industrie fonctionne en ce sens. Ben, je pense que le titre qui était propriétaire de cet Elantra-là a prouvé que on était capable de faire un entretien. Ça lui a coûté à peu près 3 000 $ d'entretien par année, en incluant 2 jeux de pneus annuellement. Garder cette voiture-là en vie pendant 12 ans. Donc, si j'ai fait le calcul, là, 18 000 $ l'achat de la voiture plus 3 000 $ d'entretien par année, grosso modo, on parle à peu près 55 000 $ sur 12 ans pour rouler 1 000 000 km.
Mais là, tu me dis 12 ans, là, c'est quoi? C'est une 2008,
la voiture. Je pense que lui, il l'avait acheté usagée de quelques années. Donc, parce qu'il me dit rouler en moyenne 117 000 km par année. C'est le calcul que lui a fait. Et c'est exceptionnel. Lui fait du transport médical et sur la route à la journée longue. Évidemment, l'avantage, c'est que cette voiture-là n'a fait pratiquement que de la route secondaire et de l'autoroute, pas beaucoup de villes. Mmh. Ça, on sait que la ville, c'est ce qui tue la condition d'une voiture. Une voiture sur l'autoroute, ça ne s'use pas. Une voiture en ville, ça s'use prématurément. Donc ça aussi, ça a joué à l'avantage de cette auto-là. Et j'aurais eu le plaisir de voir les 6 chiffres s'aligner aujourd'hui, parce que ça va être 999999. Après ça, le compteur bloque. Ça ne retombe pas à zéro.
Ah oui? Bon, ben, je te souhaite de ne pas tomber en panne avec ta Elantra à 1 000 000 km.
Bon, elle n'est plus garantie, mais j'ai encore confiance.
Parfait. Merci, Antoine. À la prochaine.
Merci, salut. Salut.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez